Monsieur Serge Ouello, bonjour.
Bonjour, Monsieur José Menga.
Vous êtes à Montréal, au Canada. Quelle est votre réaction face à la révisitation de contrats miniers en République démocratique du Congo?
La question de la révisitation des contrats miniers a défrayé quand même la chronique, même sur le plan international, concernant le secteur minier au Congo. Je suis content, c'est que le gouvernement ait révisité ces contrats. Nous savons que le gouvernement congolais a besoin urgent de ressources fraîches pour entamer la reconstruction du pays. Je me souviens, le fait ministre de l'économie et du commerce, André-Philippe Fouta, avait relevé que la contribution du secteur minier était bien inférieure aux attentes, ne dépensant même pas 6% du budget national, contre 30% en 2002, je me souviens. Et la question de savoir, oui, le gouvernement congolais a bénéficié de quelques millions, selon leur estimation, mais qu'en est-il du rôle social de ces compagnies minières pour le développement de la communauté, monsieur José Menga?
Oui, lorsque vous parlez de rôle social, à quoi est-ce que vous faites allusion exactement?
Normalement, le gouvernement congolais devra négocier avec chaque compagnie minière étrangère d'extraction pour mettre sur pied de vrais programmes sociaux de développement destiné à permettre à la population locale de tirer parti du renouveau de l'économie. Ces compagnies doivent réellement s'investir dans des programmes sociaux, réellement s'investir dans le développement de la communauté. Le gouvernement congolais doit demander à ces compagnies minières étrangères des objectifs en faveur, par exemple, du recrutement local avec une embauche de plus d'employés congolais. Ces compagnies doivent travailler avec plusieurs communautés villageoises pour les aider à définir leurs besoins et leurs priorités. Et pour s'assurer qu'elles sont vraiment, elles, en mesure de bénéficier à leur tour de la vitalité de la croissance économique de leur pays.
Oui,
les compagnies minières, M. José Menga, doivent construire, par exemple, des écoles, des marchés couverts permanents qui va permettre la mise à disposition d'emplacements d'exposition. Le gouvernement congolais devait négocier avec ces compagnies minières qui font d'énormes profits chez nous. Ils doivent creuser, par exemple, des centaines de puits destinés à fournir de l'eau à nos communautés villageoises. Et en agissant ainsi, elles vont contribuer grandement à améliorer les normes de santé locale. La construction des canalisations d'eau, par exemple, par gravitation, par exemple, M. José Menga, cela permettra de fournir de l'eau potable
et travailler vraiment en étroite collaboration. Est-ce que vous pensez, parce qu'il y a d'autres opinions qui disent qu'on retrouve aujourd'hui aussi dans le gouvernement d'autres personnalités, de gens qui, au niveau de ces compagnies, exercent aussi d'autres petits boulots, excusez-moi les termes, au profit ces compagnies. Est-ce que vous pensez que cela va aller dans le sens de défendre les intérêts des communautés de base?
J'ai entendu parler, au Congo, on parle de la tolérance zéro. Et les rapports de plusieurs panélistes des Nations Unies avaient indiqué les principaux acteurs du pillage des ressources naturelles au Congo. Et permettez-moi de dire, on a vu le rapport Lutundula, on a lu ça ici, on a cité quelques-unes des personnes qui se trouvent même autour du pouvoir. Alors, avant de commencer à balayer dans plusieurs autres secteurs, on doit commencer à balayer chez soi-même.
C'est-à-dire?
Le chef de l'État devait commencer à balayer autour de lui avant de voir ailleurs. Donc, c'est ça mon impression là-dessus, vraiment. Donc, je reviens, M. José Menga, vraiment à dire ceci, comme l'a dit Patrice Emery Lumumba, que nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous allons veiller à ce que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants.
Oui, vous êtes vice-président du Congrès des Congolais à Montréal. Quel est le message que vous envoyez à partir du Canada aux Congolais?
En tant que vice-président du Congrès des Congolais du Canada, nous sommes là, nous ne croisons pas les bras. La responsabilité du peuple canadien à travers le gouvernement canadien et de toute la classe politique dans la poursuite et le règlement des conflits dans le pays de la région des Grands Lacs et particulièrement dans l'établissement d'une paix durable en RD Congo n'est pas négligeable. Nous le savons. C'est pour cela, de temps en temps, ici, le Congrès des Congolais du Canada rappelle que, depuis 1998, le Canada aurait consacré plus de 193 millions de dollars à l'aide à la population et à la République démocratique du Congo à travers différents programmes. La situation et les résultats concrets sur le terrain, ainsi que l'impact de cet investissement établissement financier contraste, sinon n'apparaît nulle part, nous le savons, sinon que nous constatons l'aggravation de la violence sexuelle envers les femmes et les enfants, l'absence persistante plutôt des services de santé. Et il y a fort à parier que cet argent a servi en grande partie, si pas entièrement, à garnir les frais de l'avion, les séjours aux hôtels, les frais de déplacement, la rédaction des rapports par des consultants et experts amis politiques de l'Agence canadienne de développement international en sous-traitance avec des agents locaux. Il n'y a pas d'impact direct. Et le Congrès des Congolais du Canada est là. On fait beaucoup, on met beaucoup de pression au gouvernement canadien afin que l'aide canadienne puisse bénéficier réellement aux populations locales congolaises. Nous sommes de cœur avec vous, population congolaise, loin des yeux, près du cœur.
Monsieur Serge Ouello, je vous remercie.
Merci beaucoup.